Il n'y a pas que le 8 mars, bonjour à tous. C'est bientôt les fêtes, nous sommes déjà en décembre. Fleurissent dans les magazines les conseils pour être belle. Vous avez le rhume, vous avez les yeux rougis, le nez coulant. Vous voici à la pharmacie et sur le présentoir à côté de la banque, les produits miracles qui vont vous redonner fraîcheur et éclat. Ben, c'est quoi tout ce business ? Aujourd'hui, dans Il n'y a pas que le 8 mars, on parle beauté. C'est quoi la beauté féminine ? Rien que ça. Des rencontres avec des jeunes en formation au lycée Pardée. Un peu plus tard, on vous emmène au Hammam. En studio ce soir, pour m'accompagner, Annie Potard et Michel Coltis. Bonjour.
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 Le portrait.
On tape sur le moteur de recherche le plus utilisé, le mot beauté. Et avant même d'avoir une définition de la beauté, un concept, défilent alors les sites qui vendent les produits qui nous feraient rêver. Une ampoule dont les propriétés offrent une action liftante, instantanée, pour une durée de 8 heures. Les rides et ridules sont alors estompées. Le visage retrouve éclat et luminosité. Vous avez des ridules ? Pas des rides, non, des ridules. Pour défroisser un visage fatigué le matin ou avant un entretien, une soirée pour une mise en beauté instantanée, acheter telle autre lotion. Pour durer dans le temps, vous pouvez faire une cure. Le business de l'esthétique et de la relaxation explose. Effacer les effets du temps. Effacer les signes de la vie. Rendre lisse. Être belle. Est-ce que c'est être lisse ? Le marché de la beauté regroupe tous les moyens possibles d'améliorer l'aspect physique. Que ce soit la coiffure, les soins pour la peau, le lifting, le maquillage, la manucure ou l'épilation. En 2015, la France compte environ 14 000 instituts de beauté, dont les deux tiers sont indépendants. 25% des Françaises se rendent régulièrement en institut de beauté. Ce marché a représenté en 2014 environ 2,9 milliards d'euros. Un magasin de parfumerie dans un centre commercial peut faire en fin de journée une caisse de 15 000 euros. Ce chiffre peut doubler en période de fête. Les 15-24 ans représentent 12% de la part des ventes totales d'hygiène beauté. Cette classe d'âge est très influencée par les réseaux sociaux, notamment par les youtubeuses qui proposent des tutoriels beauté.
Et qu'est-ce qui pousse à ce marché juteux ? L'environnement, les pubs, quelle représentation les jeunes en ont-ils de la beauté féminine ? C'est ce que nous sommes allés voir. La première à qui nous avons posé la question est Louise, à qui nous avons demandé d'illustrer ce thème. Vous pourrez d'ailleurs retrouver son affiche sur le site de l'émission. Et qu'est-ce qu'on y voit sur cette affiche, Michel ?
Alors, sur cette affiche, il y a 5 cases. Où Louise Perrier nous montre une jeune femme qui sûrement, en fonction de, toutes les normes, quoi, les canons de la beauté du visage, se trouve très, très moche, très vilaine. Et donc, elle ne peut plus se regarder dans la glace. Et donc, du coup, elle ne va chercher qu'une chose, c'est finalement se rendre invisible et ne plus exister. Et donc, se cacher derrière un masque. Là, il faut voir ce visage complètement travaillé de couleurs et de dessins. Et finalement, petit à petit, dans la dernière case, quand même, il y a l'idée que peut-être que si on s'échappe de tout ça, on peut trouver un peu de bonheur dans un sourire et peut-être que le sourire peut rendre beau.
Et donc, du coup, Louise nous propose la traduction d'une chanson d'Alessia Cara qu'on va écouter maintenant.
She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows. No limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry.
Elle veut simplement être belle, elle passe inaperçue, ne connaît aucune limite, elle a une folle envie d'attention, elle fait l'éloge d'une image, elle prie pour être sculptée par le sculpteur, oh, elle ne voit pas la lumière qui brille si profondément que les yeux ne peuvent pas la trouver. Peut-être que nous l'avons rendue aveugle, alors essaye de couvrir sa douleur et d'oublier ses malheurs, car les filles sur les magazines ne pleurent pas après s'être fait maquiller. Voilà quelques bouts de la traduction de la chanson.
Deuxième rencontre à Bourg, le lycée Pardet propose une formation de bac professionnel qui prépare au métier de l'esthétique. Comment des jeunes de 17-18 ans, élevés dans un environnement d'images stéréotypées, pubs, télé, clips musicaux, ont été ou sont influencés dans leur représentation? Le mieux pour le savoir, c'est de leur demander. C'est ce que nous avons fait, nous leur avons demandé ce qu'était pour elles la beauté féminine. Elles nous ont répondu.
Tiens, elle est propre à chacun. Et vraiment, enfin, il n'y a rien d'autre à rajouter.
Le modèle de la beauté féminine, chaque femme est belle.
Ah.
Différemment, physiquement. Le modèle de la beauté féminine, pour moi, c'est 1m65, châtain, qui s'habille bien. Mentalement qui est gentille, douce, qui rigole, la joie de vivre, le sourire est très important.
Le modèle de la beauté féminine, un modèle de taille moyenne, avec quelques formes, des cheveux bouclés, longs et bruns, des yeux marrons et une peau bronzée. Taille moyenne, c'est combien à peu près ?
1m60-70.
1m60-70. D'accord, bon. Pour moi, c'est une femme qui a confiance en elle, qui assume ses petits défauts pour en faire une force, être épanouie dans son corps.
Le modèle de la beauté féminine, c'est la taille 1m60-65, comme on disait tout à l'heure. Couleur de peau bronzée, métisse. Forme généreuse. Forme généreuse, c'est-à-dire marquée ou ronde.
Un derrière, un vrai derrière,
oui. Un hanche qui se voit bien.
Après, je ne suis pas forcément fine comme le montrent justement tous les magazines où elles ont limite la peau sur les os, quoi. C'est ça que je voulais dire surtout.
D'accord.
Donc on est rassurés par vos réponses, même pour nous.
Pas de modèle à suivre pour être un symbole de beauté. Chaque femme, quelle que soit sa taille, sa couleur de peau, sa texture de cheveux, est belle à sa manière. Elle peut souligner sa beauté avec du maquillage ou changer de coupe de cheveux pour être plus désirable selon elle, mais il n'y a pas de type de modèle de femme de la beauté à suivre, car chacune est belle à sa manière, et pour moi, la beauté féminine est la plus belle lorsque l'on est naturel, car elle montre notre vraie beauté, notre vrai visage.
Alors, ce qui voudrait dire que quand on se maquille, on est tout en faux ?
Non, pas forcément, mais on se rend plus désirable, donc plus regardé.
On a presque toutes les couleurs de cheveux jusqu'au rouge, les qualités de cheveux lisses, bouclés, ondulés. Mais aucun modèle afro ou de cheveux très frisés. Du blond au châtain, peu de brune, une seule fois la couleur rousse. Le blanc sur cheveux courts est tendance, quand les têtes blanches se font des couleurs. Les jeunes se blanchissent. Les marques du temps, tout comme les générations, ont tendance à se gommer.
Il y a des femmes qui peuvent être belles physiquement, des beaux yeux, des beaux cheveux, une taille fine, belle couleur de peau, beau sourire, et celles qui le sont de l'intérieur et qui auraient un bon corps, bon cœur, pardon, qui auraient un bon cœur. D'être de beauté féminine, ça serait une femme grande, avec des longues jambes, la beauté intérieure compte aussi, cheveux blonds, lisses et yeux bleus.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Bah oui, une femme peut être jolie physiquement, mais intérieurement, ça peut être quelqu'un de mauvais.
Oui.
Bah oui, enfin, chacun a sa définition de la beauté. Après, on ne peut pas avoir une idée fixe.
Donc en fait, vous voyez toutes sortes de femmes dans les instituts d'esthétique ou chez le parfumeur. Ou, bon, effectivement.
Par exemple, en institut, on voit des femmes qui travaillent toute la journée, qui ont beaucoup de choses à faire, qui ont un emploi du temps chargé, et que quand elles viennent prendre soin d'elles en institut, bah, elles peuvent pas ressembler à ces filles qu'on voit sur les magazines. Du coup, bah, on prend soin d'elles selon son type de peau, selon sa personnalité.
Bah, quand je parle de forme, c'est par rapport aux filles qui sont plutôt ventre plat et tout, qui veulent ressembler à leur star, justement. Ça sert à rien de vouloir ressembler à une star. On est comme on est. Donc si on ne veut pas avoir des formes, c'est un choix. Mais si on les veut, c'est aussi notre choix. Donc ça fait plaisir de voir des filles avec des formes qui ne sont pas plates et qui veulent ressembler toutes à leur modèle.
En plus, je veux dire, juste pour moi, la taille mannequin, ce n'est pas quelque chose de beau.
Et pourquoi ?
Bah, j'aime pas quand on voit les os, tout ça. Donc je trouve ça pas attirant.
Quelqu'un me disait, avec les femmes rondes, on met plus longtemps à faire le tour et c'est pas désagréable. C'était pas méchant, hein ? C'était gentil.
Alors, le modèle de beauté, pour moi, c'est une femme qui est elle-même, qui s'assume et qui est épanouie. Peu importe sa taille, son poids, son origine, la beauté est subjective et propre. Est propre à chacun.
Chaque personne est différente, personne ne peut plaire à tout le monde.
Oui.
Donc ça voudrait dire que être beau, c'est pour plaire à quelqu'un.
Bah non, justement. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pour plaire on va forcément plaire à certaines personnes mais pas à tout le monde.
Est-ce que dans vos cours en esthétique, vous discutez de ce genre de choses, de la représentation de la beauté ou des modèles ou des stéréotypes ?
Bah non, on n'en parle pas, mais on est quand même confronté avec quand on travaille en parfumerie, on a forcément besoin de vendre des produits façon par rapport à la marque, mais enfin on a la réalité et chaque femme, voilà quoi. Enfin.
Pour moi, une femme ne devrait pas avoir un modèle féminin. Toutes les femmes sont belles à leur manière, c'est-à-dire qu'elles devraient s'aimer, s'accepter et être elles-mêmes pour pouvoir avancer dans la vie. Peu importe sa couleur, sa taille, sa corpulence, je pense qu'on devrait enlever le modèle féminin pour que toutes les femmes s'aiment.
Non mais l'idée est intéressante dans la confiance en soi et on est belle aussi parce qu'on a confiance en qui on est, je pense.
Oui, c'est totalement ça. Puis aussi, je n'ai pas parlé, mais je pense que maintenant, on a tout un téléphone portable, du coup, on a toutes des réseaux sociaux. Et je voulais en venir parce que dans les réseaux sociaux, on voit des photos de mannequins, des photos de stars, des photos de tout ce qu'on veut. Et souvent, les jeunes filles, elles veulent souvent ressembler à ces personnes-là et c'est pas ça la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, c'est vraiment rare de rencontrer quelqu'un qui fait 1m75, qui a les critères de beauté de quelqu'un de 20 ans. Enfin, c'est pas ça la beauté pour moi. Voilà.
Merci.
Pour moi, il n'y a aucun critère de beauté pour être un modèle pour des femmes. Toutes les femmes sont belles, qu'elles soient brunes, blondes ou rousses, grandes ou petites, minces ou en surpoids. La beauté est aussi dans l'âme. C'est pas que poétique, hein. C'est pas que de la poésie, parce qu'en fait, c'est presque, ouais, c'est de la philosophie, en fait. Hein. C'est-à-dire que la beauté, c'est aussi la beauté intérieure, c'est ça ? Hein ? Alors, c'est quoi la beauté intérieure ? Tu peux la définir un tout petit peu ?
Bah, une personne, qui n'est pas méchante, qui n'a pas mauvaise foi, malhonnête, qui veut pas du malheur des autres. Parce qu'une personne qui, enfin, est méchante avec les autres, pour moi, c'est une personne qui, bah, dégage pas de la beauté, en fait, donc voilà.
Elle est noire à l'intérieur, donc elle peut pas forcément être... Elle peut être belle à l'extérieur et noire à l'intérieur, donc elle sera pas forcément belle dans ce contexte-là.
Voilà ce que nous ont dit ces filles-là. On leur avait demandé par écrit pour qu'elles puissent s'exprimer. Voilà, donc c'est une suite d'impressions. Alors, bonjour nos idées reçues et nos préjugés. Nous qui pensions aller voir des jeunes qui étaient complètement formatés, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, on retrouve quand même un canon de beauté, quelque chose quand même qu'on retrouve, c'est la taille moyenne. Alors là, elles ont toutes la taille moyenne. Et d'ailleurs, à un moment, on leur a demandé de se lever parce qu'on voulait voir. Et elles se sont levées et elles avaient absolument toutes à peu près la même taille. Elles étaient toutes autour du 1m60, 65. C'était bien, bien drôle. Voilà. Autrement, des choses qui reviennent très souvent, la couleur de peau. Alors là, plein de qualificatifs, la peau bronzée, la peau... Elle nous expliquait d'ailleurs pourquoi c'est ce teint qui prévalait maintenant. Bat, bronzé, pas de peau vraiment blanche, pas de peau noire. Au niveau des cheveux, toutes les couleurs de cheveux, mais aucun type afro. Hein, pourtant il y a, dans la section il n'y en avait pas, mais dans le lycée il y a quand même des jeunes noirs.
Et oui, puis on ne parle pas du tout de cheveux courts non plus.
Hein. On ne parle pas non plus
toujours de cheveux longs, lisses, brillants.
Ça. Alors en fait, le modèle c'était elle, c'était pas tellement les modèles donnés par, elles nous le disent bien hein, d'ailleurs. Le professeur s'est prêté au jeu aussi, et ce qui était sympa c'est que ça donnait, les représentations qu'elle avait correspondaient aussi aux représentations des jeunes, donc quelque chose de, plutôt d'ouvert. Voilà, donc on est arrivé avec plein de préjugés et on repart, d'ailleurs Annie tu le disais, content de ce qu'on a entendu. Alors, ces jeunes qui sont rentrés dans une formation d'esthétique, alors quelle est leur motivation pour cette formation ?
En réalité, depuis toute petite, j'ai aimé faire des massages à mes parents ou à mes proches, et je voulais devenir esthéticienne avant même d'être entrée dans la salle. Et donc j'ai fait tout mon possible pour entrer dans cette école. C'était assez dur parce que j'avais des difficultés, mais en réalité, quand on a envie de quelque chose, on peut y faire. Et en avançant dans cette filière, petit à petit, on découvre, on comprend et on affine nos projets. Et après, c'est que l'ambition et du vouloir.
Depuis toute petite, j'ai toujours aimé l'esthétique, que ce soit les ongles, le maquillage, tout ça. Et au final, du coup, je voulais vraiment rentrer à Pardey. Donc j'ai fait un stage en institut, ça m'a plu et du coup j'ai demandé pour être à Pardey et j'ai été acceptée. Et du coup là ça fait 3 ans que ça me plaît vraiment, c'est une passion.
La beauté de la femme, du coup, c'est quelque chose d'important. À la base c'était vraiment mes motivations. Moi, embellir une femme en lui faisant du maquillage et la voir heureuse après, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. L'avoir conquise après un soin du visage ou du corps, c'était quelque chose qui me motivait, surtout que les clients qu'on peut recevoir plus tard dans un institut, un spa ou autre, on les voit toujours souvent conquises et elles nous le font savoir, donc c'est super agréable. Souvent ça devient une passion plus qu'un métier. Voilà.
Merci. Personne n'est là par hasard.
Mmh. On a toutes décidé d'être ici, sinon ce serait pas là.
Donc en fait, c'est quand même un métier aussi qui est gratifiant pour soi et qui valorise.
Merci.
Comment ? Ça m'intéresse.
Ça nous fait grandir nous-mêmes aussi. Parce que, on est un professionnel, donc on apprend... Enfin, je ne sais pas comment dire.
Un métier.
Voilà, on est directement plongé dans un métier, donc dans un stage, on n'a pas le droit de penser comme un enfant de 5 ans ou de réagir.
Et du coup, c'est vrai que le fait d'embellir une personne, et en fait, c'est ce que les autres, en fait, je rejoins tout ce qu'elles disent, le fait de les sentir plus rayonnantes et plus jolies, nous aussi, on est satisfaites nous-mêmes, en fait, du coup. On est heureuses d'avoir réalisé notre travail correctement, en fait. Voilà.
En fait, on se sent utile quelque part, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, on se sent utile pour les femmes et les hommes, du coup, aussi.
Alors, à écouter ce que disent toutes nos rencontres, élèves, enseignantes, professionnels, les canons de beauté proposés sur les magazines ne sont pas leur modèle, manifestement. Pourtant, le marché de la chirurgie esthétique est florissant. Et le désir pour de nombreuses femmes de coller aux stéréotypes proposés font du marché de la beauté un marché juteux. Tout au long de nos recherches, nous avons trouvé une étude faite par un site de voyage et relayée par CNews. Qu'en est-il des canons de beauté ailleurs dans le monde ?
Wandering Pioneer explique que la Mauritanie a la particularité d'avoir des normes de beauté uniques au monde. Dans ce pays d'Afrique, l'obésité est un signe de richesse et certaines femmes vont jusqu'à prendre des médicaments destinés à engraisser les bovins afin d'augmenter leurs chances de mariage.
Je trouve ça bizarre. Bah, en fait, c'est pas du tout la même mentalité que dans d'autres pays. Parce que là-bas, ils sont axés vraiment... Ils veulent grossir, quoi.
Alors que c'est un pays pauvre de base. C'est un pays pauvre de base, non ?
Alors, c'est ça. On est en Afrique. Après, c'est peut-être pas dans toutes les familles, mais voilà, c'est le canon de beauté. Et les femmes, ben, c'est pas de la chirurgie esthétique, mais c'est au contraire, il faut engraisser. Hein ? Il faut quand même elles se mettent en danger pour coller aux critères de mode. Intéressant, hein.
La femme brésilienne Egal avait les congères ressemblables à celles d'une contour d'une guitare plutôt qu'à ceux d'un sablier. Dans les faits, cela signifie qu'une poitrine généreuse ne représentait que peu d'intérêt pour les Brésiliennes. En revanche, plus les fesses et les hanches étaient épaisses, plus la brésilienne était considérée comme désirable. Des critères qui se sont toutefois estompés au cours de ces dernières années. Les standards de beauté nord-américaines les remplacent progressivement. Aujourd'hui, les augmentations mammaires et les cas d'anorexie sont en augmentation au Brésil. Les femmes voulant à tout prix ressembler aux filles qu'elles voient dans les médias internationaux.
L'Inde fait également partie des pays où les standards de beauté féminine sont en train de changer sous l'influence des médias occidentaux. Traditionnellement, la femme indienne idéale a une taille étroite, les hanches larges, une poitrine généreuse, de grands yeux, de longs cheveux noirs, et un teint moyennement foncé, indique le site. Mais le modèle à suivre est désormais celui de l'actrice et ancien mannequin Aishwarya Rai, qui est considérée aujourd'hui en Inde comme l'une des plus belles femmes du pays. Mais elle a la peau claire, les yeux verts, une exception à la norme en Inde, révèle Wandering Pioneer. Pour lui ressembler, de plus en plus d'Indiennes n'hésitent d'ailleurs pas à utiliser des produits pour blanchir la peau, quitte à mettre leur santé en danger. Une expression populaire est même née pour désigner la pratique, le syndrome Blanche-Neige.
Donc là, on était en...
Inde.
On était en Inde. Voilà.
Et moi, j'ai l'Iran. En Iran, les standards de beauté de la femme iranienne s'expliquent d'abord par les règles strictes en vigueur dans ce pays où chaque femme est obligée de porter le hijab. La beauté de la femme se concentre ainsi sur le visage. L'idéal de beauté en Iran consiste souvent en l'utilisation de maquillage lourd et inévitablement par la chirurgie plastique, explique Wandery Planer. L'Iran a par conséquent le plus haut taux de rhinoplastie au monde, une chirurgie qui serait même revendiquée. Il n'est pas rare pour les femmes d'enlever le pansement de leur nez bien après que leur convalescence soit terminée.
Vous savez ce qui se passe en Iran ? Vous connaissez un peu la situation des femmes là-bas ?
Nous venons de faire un petit tour à l'étranger. Annie, tu nous proposes un voyage dans le temps, toi, la beauté féminine. Alors, c'est récent ?
C'est-à-dire que quand nous avons décidé de faire une émission sur la beauté avec toi, je me suis d'abord dit que c'était là un bien vaste sujet. J'ai hésité de m'intéresser à ce qu'en disait la philosophie. J'ai trouvé les extraits d'une conférence tenue par Philippe Granarallo, agrégé de philosophie, et qui pose la question de savoir si la beauté est féminine. En langue française, le mot beauté est du genre féminin. Il en est de même dans presque toutes les langues européennes. Et puis, il a aussi recherché dans le monde animal. Et qu'en est-il dans le monde animal ? On constate une incontestable masculinité de la beauté dans l'immense majorité des espèces vivantes. C'est chez les mâles que se manifeste très majoritairement une recherche esthétique absente dans le sexe féminin. Les femelles ont tout intérêt à passer le plus inaperçu possible durant les périodes d'incubation en particulier. Eh oui. Les mâles seraient-ils, eux, indifférents au danger qu'entraîne une parure éclatante ? Sans doute pas. Mais les parures du mâle sont un facteur de séduction et la nécessité de l'emporter dans la lutte pour la reproduction rend secondaire, évidemment, le danger ainsi encouru. Les femelles dépensent la plus grande part de leur énergie dans les tâches de la maternité, tandis que les mâles, libérés de cette fonction, peuvent dépenser une part de leur énergie dans ce qui n'est pas excessif d'appeler une dimension esthétique. Et alors, si on va rechercher dans les tribus, la majorité des tribus archaïques, eh bien là encore, ce sont les hommes qui enjolivent leur corps. qui les parent, des plus beaux atours, qui rivalisent d'inventions esthétiques, maquillage des guerriers dans la plupart des ethnies, tatouage des Indiens d'Amérique, bijoux des hommes aztèques ou incas. L'effort pour embellir son corps, le rendre plus visible, l'arracher à la monotonie naturelle, cet effort est incontestablement masculin. La beauté, un apanage féminin, avec l'essor de la civilisation, donc là on continue dans le temps, hein, la parure et la transformation du corps est devenue l'apanage des femmes, qui vont s'arroger un quasi-monopole. Et là, elles vont se venger, les femmes. La femme, dès les premières sociétés organisées, ne voit plus peser sur elle seul le poids de la maternité. Pendant que la femme s'embellissait en affinant son corps et en le parant de mille feux, l'homme, on le comprend, ne pouvait que valoriser les activités agressives auxquelles il consacrait ses forces afin de se masquer à lui-même son infériorité et sa primitivité. Alors là, pour moi, ça va un peu loin. Bon, on pourra en reparler.
Oui, les choses évoluent.
Voilà,
les choses évoluent,
heureusement.
Hein, au niveau des genres.
Et donc, ces extraits donc, sont tirés d'une version abrégée d'une conférence prononcée par Philippe Granaralo en mai dernier à Clermont-de-l'Oise dans le cadre d'un colloque national intitulé « De la beauté » et organisé par l'association Art et Thérapie.
Voilà, donc à quoi ça sert finalement la beauté? Ben tiens, on va aller voir la beauté vue par Sarclot.
La chanson d'amour qui suit, évidemment, s'appelle « C'est une poupée qui fait non, rien de rien, je ne regrette rien ». Des questions ? T'es belle comme un chocolat, comme un koala, comme un courant d'air. Belle comme un camion de briques, comme un train électrique dans la vitrine de chez Weber. T'es belle comme un jour de grève, belle comme le salève depuis Collonges. Belle comme un panier de prunes, belle comme un coup de lune, comme les jours qui s'allongent. T'es belle comme un radiateur, belle comme un chou-fleur, belle comme un crayon. T'es belle comme du blé qui pousse, comme le petit Larousse à la page des avions. T'es belle comme un toit d'ardoise, un bonbon framboise qui colle dans les poches. Belle comme un arrosoir, comme une pile de mouchoirs, comme un manche de pioche. T'es belle comme la tour Eiffel, belle comme une poubelle, comme un champ de colza. T'es belle comme un petit vélo, comme une chanson de Renault, etc.
Bel inventaire qui sort des images bucoliques qu'on a l'habitude d'entendre et qui nous font rendre beau, même des images de catalogue et de calendrier. Mmh. C'est super. On part dans notre deuxième rencontre. Je me souviens en fait d'un film que j'ai vu il y a bien longtemps, je crois que c'est un film turc, qui est de Ferzan Özpetek et qui se passe dans un hammam. Et je me souviens les allées et venues des corps qui étaient dénudés, évidemment, dans le cadre de la caméra qui me faisait voir ces corps. Tous les corps me semblaient beaux. Et du coup, eh bien, Annie et moi, nous sommes allés rue de la République à Bourg, dans le premier hammam ouvert dans l'Ain, portrait de la personne qui tient cet établissement.
Bonjour, nous sommes ici dans un lieu, alors que vous allez nous décrire, et qui accueille donc des femmes et des hommes qui s'occupent de leur beauté, est-ce qu'on pourrait dire ça ?
De la beauté, effectivement. Alors, moi je m'appelle Françoise, je tiens un hammam qui est basé sur Bourg-en-Bresse depuis bientôt 20 ans. C'est un commerce familial que ma maman a créé en 1999 et que moi j'ai repris donc depuis 6 ans. Et donc voilà, aujourd'hui je suis là pour m'occuper des de la clientèle qui souhaite découvrir un petit peu les bienfaits du hammam, prendre un petit peu soin de soi d'une façon différente, au-delà des soins qu'on peut connaître habituellement.
Est-ce qu'on pourrait dire que le hammam, c'est un endroit qui est lié à une culture, à des traditions ?
Oui, alors à la base, le hammam vient essentiellement des pays du Maghreb. C'est une tradition là-bas qui est incontournable, qui est même presque obligatoire. Les femmes ont pour habitude d'aller au hammam quasiment une à deux fois par semaine pour s'y retrouver, prendre le temps de partager un moment entre femmes, de papoter, mais surtout de prendre soin de soi, de s'occuper de la peau, des cheveux, des mains, du corps complet, histoire de ressortir de là complètement détendu, purifié et bien dans sa peau.
Voilà, alors on pourrait dire que oui, c'est à la fois on vient au hammam parce qu'on veut se faire belle ou beau, et en même temps il y a le côté purificateur. Alors, oui. Et alors qui est lié à quoi ?
Le bain de vapeur, la chaleur va venir ouvrir les pores, et après les soins qu'on va apporter sur cette peau vont venir purifier le corps, la peau, et puis aussi l'esprit par la même occasion, puisqu'on laisse un petit peu tout s'envoler dans la vapeur.
Donc j'imagine qu'ici vous voyez plein de corps.
Plein de corps différents, oui, effectivement. Et les femmes viennent au hammam dans un climat plutôt détendu, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu classique où, comme à la piscine, on va prendre l'habitude de se regarder un petit peu. « Ah ben, tiens, t'as vu la dame qui vient de passer, t'as vu son maillot de bain, t'as vu ci, t'as vu ça. » C'est vrai qu'au hammam, ça ne se fait pas trop, ça se fait assez naturellement. Les gens viennent librement et ne se regardent pas trop, peu importe le corps qu'on a, la couleur, la corpulence, ça n'a pas trop d'importance soi-même. C'est vrai que les gens oublient un petit peu tout ça.
Donc finalement, l'esthétique du corps n'a que très peu d'importance. C'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas au départ, plutôt déshabillés,
et
ça ne pose pas de problème particulier.
Pas spécialement, non. C'est vrai que la tenue de rigueur ou hammam, c'est quand même le maillot de bain. Les corps peuvent être complètement différents. Moi, après, je travaille dedans tous les jours, toute la journée. Et c'est vrai que j'y fais pas attention. Mais même pour des clientes qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas, qui peuvent avoir une corpulence peut-être un peu forte, sont peut-être un petit peu réticentes au début. Et puis au final, quand on arrive à passer le cap et à venir une première fois, elles se rendent vite compte que finalement ici, ça a très peu d'importance. Donc tout le monde est à égalité, ouais même. Il n'y a pas de mannequin plus que d'autres.
Et alors, comment on traite de la... Vous l'avez un peu dit parce que vous avez parlé d'aussi les gens viennent se purifier finalement. Oui, que la beauté, on pourrait mettre un lien entre... être pur et la beauté.
Oui, alors c'est une forme de beauté aussi, puisque être bien dans son corps, quand on ressort du hammam, on a la peau toute douce, on est détendu, on a un joli teint. Alors forcément, ça agit aussi sur l'aspect de la beauté générale. Si le visage sourit, la beauté forcément, se reflète. Donc ça joue aussi. C'est pas que esthétique.
Voilà, alors la forme d'état d'esprit dans laquelle on est, finalement, peut nous rendre beau.
Oui.
Et alors, si je vous pose la question de la beauté, alors vous allez me dire quoi ? Pour vous ?
Pour vous. Pour moi ?
Oui.
Qu'est-ce que la beauté pour moi ? Oh, bah, c'est plein de choses. Ça passe par la... Effectivement, alors, ça peut être cliché, mais par la beauté intérieure d'une personne. Parce qu'elle va dégager par sa façon de parler, son attitude, le discours, et puis bien sûr par l'aspect physique. Après, la coiffure, les yeux, le maquillage, la tenue vestimentaire, la prestance, ça peut passer par plein de choses, la beauté. Moi, je vois la beauté un petit peu où je la trouve. Un peu de partout.
Finalement, l'état intérieur comment dire, amène de la beauté ou pas, fonction de dans quel état on se trouve.
Aussi, oui, je pense.
Alors Françoise nous raconte un après-midi au hammam, concrètement, le bain de vapeur, le gommage, les soins, suivis d'un thé à l'amande dans la salle de repos. On a vraiment envie d'en savoir plus. Alors la différence hammam, institut d'esthétique ?
Alors est-ce qu'on pourrait dire que le hammam s'apparente à un institut d'esthétique ?
Alors non, c'est un centre de beauté. Où on vient prendre soin de sa peau, soin de soi aussi, comme un cabinet d'esthétique, un centre d'esthétique classique. Sauf que moi, je ne suis pas esthéticienne. Je n'utilise aucune machine particulière, je ne fais pas de traitement cellulite, anti-âge. Le hammam traditionnel, ça va rester vraiment sur des choses simples et basiques, entre guillemets. Moi, je travaille par exemple avec aucune marque, aucune gamme de soins en particulier. Tous les soins proposés au hammam sont faits maison. C'est que des produits naturels que j'assemble moi-même au coup par coup en fonction de la demande de ma cliente. Donc tous les jours, je prépare mes petits soins en fonction de ce qu'on me demande. Bien sûr, il n'y a pas de conservateur, pas de produits chimiques dedans. Je travaille qu'avec différentes argiles, des plantes, des huiles essentielles, certaines. Hein, j'en utilise pas 200, puisqu'il faut savoir les utiliser. Et il y a déjà pas mal de vertus dans une huile essentielle. On peut utiliser pour beaucoup de choses. Donc, des huiles végétales également, essentiellement. Donc voilà, je ne suis pas un institut de beauté. Les femmes viennent rechercher plus ou moins le même genre de choses, mais on apporte des soins différents.
Alors, pas un institut de beauté, donc quelle formation elle a eue, cette jeune femme ?
Du coup, quelle est la formation que vous avez eue, puisque vous dites que vous n'êtes pas esthéticienne ?
Alors, moi, j'ai tout appris sur le tas. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une entreprise familiale qui va fêter ses 20 ans en mai prochain. Donc, ma maman ayant créé le hammam en 99, moi, j'ai grandi dedans. Voilà, ça fait à peu près 20 ans que je me balade dans ces murs. c'est vrai que j'ai commencé à aider ma maman assez jeune. Moi, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à travailler avec elle à partir de 16 ans. Où j'étais assez grande pour m'occuper quand même d'une clientèle, la remplacer à certains moments. Je passais mes mercredis, mes week-ends, mes vacances scolaires au hammam. Enfin voilà, j'ai tout appris sur le tas. Je la regardais faire. On travaillait sur des soins, des nouvelles techniques. Elle me posait des questions. On essayait de regarder un peu ensemble. Et moi, j'ai mis en avant quand j'ai repris tous les petits soins que maman pouvait proposer à l'époque. Mais c'était, ma cliente se dit que ça lui ferait du bien de faire un soin du visage. Et ben, elle lui faisait un petit soin du visage, mais c'était pas à la carte comme ça. Donc non, j'ai pas eu de formation esthétique. Ma maman a voulu me faire passer au moins un an de CAP esthétique. Donc je souhaitais pas spécialement que ma maman y mette autant d'argent pour que j'y passe un an et que je ne travaille pas dedans par la suite, sachant que dans le hammam, un diplôme en esthétique pur et dur me servirait pas à grand chose, étant donné que je n'utilise ni machine, ni produits cosmétiques d'une marque ou d'une autre, que tout est fait maison. Donc c'est surtout du savoir-faire acquis au fil des années sur le tas.
Les origines, donc.
Alors, ma maman était algérienne, oui. D'où le hammam, qui lui tenait beaucoup à cœur, puisqu'elle-même avait grandi un petit peu dedans en étant plus jeune en Algérie, dans le hammam de sa tante. Et mon papa est bressan pure souche, un bressan de Bresse, voilà. Donc un mélange qui fait que voilà, j'ai pu allier les deux, on va dire, le côté traditionnel de maman avec le hammam, et puis le côté, on va dire, plutôt européen, entre guillemets, pour rester large, de papa, qui m'a permis aussi de conforter un petit peu ma clientèle européenne, parce qu'au départ, le hammam était plus souvent fréquenté par une clientèle maghrébine, forcément, puisqu'elles connaissent les lieux, elles savent à quoi ça sert. Les premières années, ça a été plus dur pour maman, parce que tout le monde se demandait qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce qu'on vient y faire. Bon, maintenant, la tendance est beaucoup plus inversée. J'ai plus de clientèle européenne que maghrébine, parce que malheureusement, la clientèle maghrébine perd aussi, enfin la jeune clientèle maghrébine perd un petit peu la tradition, les habitudes, enfin en France en tout cas ou en Europe, sauf quand peut-être ces familles-là retournent au pays pour les vacances où là forcément on fait un peu plus traditionnel, mais ici en tout cas cette tradition se perd peut-être un petit peu plus pour la clientèle maghrébine, même si elle ne l'oublie pas. Mais c'est beaucoup plus développé du côté clientèle européenne qui, du coup, sont un peu plus friandes de découvrir maintenant, un peu moins frileuses, de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Non, vous, rassurez-vous, on ne mord pas ici, on fait que du bien.
Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir consacré un temps. Et merci et à très bientôt.
Je vous en prie, c'était avec plaisir et à bientôt également.
Alors, un lieu où on avait vraiment envie de rester avec des soins traditionnels, finalement la beauté au naturel et quelque chose, elle a insisté, Françoise, pour dire que le hammam, ça reste un lieu où on peut avoir des soins, où on peut être beau, retrouver de la beauté pour des prix tout à fait modiques et, c'était important. Alors, simplement pour info, un après-midi au hammam avec l'entrée à 16 euros et puis un gommage, ça fait 22 euros. Et pour des soins complets, c'est 33. Donc, ça fait quand même pas... C'est pas énorme. Voilà. On change et on va voir ce qui se passe du côté de la culture. Chut ! Chut ! Culturels ! Eh bien, j'en profite pour te redire bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir.
Alors, tu organises pour la 5e année Voix mêlée, des rencontres autour de la poésie. Le sujet de l'année 2019, c'est la beauté. Du coup, ça tombe bien, c'est bien. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on t'a demandé de passer. Tu peux nous dire ce qui se trame pour les temps forts de cette semaine ?
Voilà, donc c'est la 5e édition de Voix mêlée, donc en 2019, puisque nous sommes, nous, on dit Voix mêlée, c'est le printemps des poètes à Bourg-en-Bresse. Donc nous sommes dans le courant du printemps des poètes national qui, tous les ans, propose un thème. L'année dernière, c'était l'ardeur, qui nous avait permis de nous ouvrir d'ailleurs à l'ardeur sportive. Mmh. Et cette année, c'est la beauté, effectivement. Donc, chaque fois, les thèmes nous désarçonnent un peu, mais en même temps, nous permettent de nous ouvrir vers des nouveaux publics, des nouveaux mondes, parce que c'est ce qu'on cherche aussi, de ne pas rester entre soi. Et on a envie de faire tomber, comme je dis toujours, les livres de poésie des étagères, parce qu'ils sont souvent sur l'étagère. Et on a envie, nous, à Voix mêlée, de faire une poésie vivante, de la partager par des petites performances qui ne durent souvent pas longtemps, pour que tout le monde puisse prendre des petits bouts, repartir avec son petit poème et tout ça. Donc voilà, 5e édition autour de la beauté.
D'accord, donc un temps fort.
Alors, le temps fort, c'est le printemps des poètes. Donc, c'est la semaine du 12. On va même dire que ça commence à partir du 9 mars jusqu'au 16 mars. Parce que cette année, nous avons la chance, nous aurons une production de la classe théâtre du CRD qui va faire quelque chose sur le thème de la beauté, en tout cas de la poésie. Donc on va commencer avec eux au théâtre Arphonème. Et puis ensuite, nous recevrons une femme poète qui s'appelle Claude Baird, qui est vraiment une femme très très intéressante, très engagée. Et je pense que nous parlerons beaucoup avec elle de la beauté des combats à mener pour une société plus juste. Et pour revenir à ce que j'ai entendu un petit peu, c'est je trouve ce qui m'a manqué depuis le début, c'est-à-dire que finalement la beauté, est-ce qu'on peut être beau dans un monde moche, quoi ? Est-ce que quelque part la beauté commence à se construire ? Et si vous me permettez, j'aimerais bien vous lire un petit texte écrit par Ovid sur Narcisse. Comment Narcisse peut-il se sentir beau ? Et je pense que ça croise assez avec ce qu'on fait à voix mêlée, c'est-à-dire qu'on essaye de n'oublier aucun art dans l'expression de la poésie, et puis aussi aucune sensibilité, parce que finalement il y a tellement de façons d'écrire.
Mais bien sûr, avec voilà. Un grand plaisir.
Donc c'est Ovid hein, dans Métamorphose 3, voilà. Il y avait une source, alors oui, c'est Ovid qui parle de Narcisse, et Narcisse, c'est évidemment celui qui se trouve beau, qui va se trouver beau. Mais on va tout de suite comprendre qu'on ne peut pas se trouver beau si le monde autour ne nous permet pas cette lecture du beau. Alors voilà, il y avait une source limpide, toute d'argent avec son eau brillante, qu'aucun berger... Aucune chèvre qui l'eût menée paître sur la montagne n'avait touché, ni nul autre bétail. Qu'aucun oiseau, aucun animal sauvage n'avait troublé, ni le rameau chu d'un arbre. De l'herbe autour, que l'onde toute proche nourrissait, et la forêt qui empêchait le soleil de tiédir l'endroit. Là, le jeune homme, épuisé par l'ardeur de la chasse et la chaleur, s'affala, tiré par la beauté de l'endroit et la source. Tandis qu'il désire apaiser sa soif, voici que naît une autre soif. Et tandis qu'il boit, saisi par l'image de la beauté qu'il voit, le voici qui aime une espérance sans corps. Ce qu'il pense un corps, c'est de l'eau. Le voici figé lui-même pour lui-même et immobile avec le même visage. Il est sans mouvement comme une statue sculptée dans le marbre de Paros. Il contemple, étendu à terre, deux astres, ses yeux, et digne de Bacchus, digne d'Apollon, ses cheveux et ses joues sans barbe, et son cou d'ivoire, et la beauté de sa bouche, et mêlé à la blancheur éclatante de neige, le rouge, il admire tout cela qui le rend admirable, lui. Voilà.
Ah, c'est super.
Je trouvais que c'était intéressant aussi d'entrevoir la beauté au travers de ces liens directs de la vie, quoi, de tous les jours. Et peut-on avoir une beauté intérieure aussi, une beauté, voilà, sans être bien avec son environnement, voilà.
D'accord.
Alors, donc, la semaine de la poésie en mars, donc, on commence avec la classe du CRD. Il y aura, bien sûr, quelque chose à la tannerie aussi. Le mercredi, il y aura des scolaires qui vont donner aussi... Un petit compte-rendu de leur travail en poésie. Et puis, il y aura donc une soirée avec la poète Claude Bert. Et nous ferons une petite déambulation le samedi, plus courte cette année, entre Brou, où évidemment nous nous poserons la question de la beauté, à la fois de comment la musique peut résonner, des chœurs peuvent résonner dans l'église, la beauté de l'architecture aussi, et voilà. Et puis nous irons aussi à la médiathèque Vaillant, où nous aurons aussi des lectures et voilà, des inédits, des surprises poétiques.
Voilà, bah merci de nous ouvrir, la fin de l'émission, voilà. En fait, sur quelque chose qui sort un petit peu plus des choses tout à fait concrètes. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter Il n'y a pas que le 8 mars, animé aujourd'hui par Joël, Annie et Michel. Un grand remerciement à Mélina, à Sylvie Ruiz et Christelle Tracoula et à tous les élèves qui ont participé à ce reportage à Pardé, à Françoise qui nous a accueillis au Hammam, rue de la République, et à Louise, illustratrice du site. Merci bien sûr à Pauline, notre technicienne, sans laquelle nous ne serions pas grand-chose.
Mais parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité. parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image des femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière ou une voiture. Vous pouvez réécouter cette émission dans 15 jours ou bien en podcast sur www.radio-b.fr.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée sur Radio.